Court-circuit, portrait des hommes et des femmes qui font la ruralité.
Ils sont le tissu économique et social de nos campagnes. Court-circuit. Sur ROC 103.7.
Un épouvantail aux abords d'une ferme, cela vous dit quelque chose? Et oui, je continue de vous emmener à la découverte d'une ferme engagée dans le dispositif de Ferme en Ferme, organisé par le réseau CIVAM, Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, et qui se déroule chaque année le dernier week-end d'avril partout en France. Alors aujourd'hui, je vous présente Fabienne du GAEC de l'Étang à l'Appui, tout près de Chauvigny. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Alors écoute, merci d'être avec nous. Je te laisse présenter la ferme.
Nous sommes à l'Appui sur une ferme de polyculture élevage. On a un élevage de porcs et un élevage de vaches charolaises, essentiellement avec un petit peu de croisement Angus. C'est une ferme en bio et on cultive sur pratiquement 200 hectares, dont 100 hectares en herbe, du pâturage pour les vaches.
Tu es en week-end, porte ouverte dans le dispositif de Ferme en Ferme, c'est ce week-end. Tu veux nous dire un petit peu ce que vous prévoyez? Quel sera le programme du week-end?
Alors nous, sur notre ferme, on accueille les visiteurs au centre de la ferme et on fait des petits groupes et on déambule dans la ferme, accompagné par trois personnes à tour de rôle, où on va voir un petit peu les vaches, même si la plupart sont déjà dans les prés maintenant. Et on va voir les différents groupes de cochons en plein air, les mères qui sont dans des parcs en plein air avec les petits, les plus gros qui sont sur un autre endroit et les porcs gras qui sont dans un bâtiment ouvert sur paille. Ce qui est un élevage pas très courant de manière générale.
Alors ça représente combien d'animaux tout ça et combien de bébés?
Alors ça évolue en permanence. En vaches, on a à peu près 80 mères et on a à peu près 80 naissances dans l'année. Mais après, on a aussi les femelles qui ont un an et qui vont avoir des petits un an après. Donc, on peut monter jusqu'à 240 animaux en même temps sur la ferme, en vaches. Et en porcs, on a à peu près 60 mères, 50 à 60 mères. Et après, c'est pareil, ben, on a les porcs qui ont 3 à 6 semaines, qui ont 2 mois et qui partent en général entre 6 et 8 mois. Vers l'abattoir. Donc, on produit à peu près 900 porcs gras à l'année, mais donc on peut avoir sur la ferme au total en même temps à peu près 300 porcs différents lieux.
Sur différents lieux. Mais oui, voilà, chacun a son espace. Alors, il y en a qui vivent tout le temps dehors, il y en a qui vivent tout le temps abrités.
Ça tourne. Alors, ça tourne en fait.
Ah ben voilà.
En fonction des âges.
En fonction des âges.
Voilà. Même les mères, on va les mettre 40 jours dans un bâtiment sur paille. Le temps de les inséminer, vérifier qu'elles ont bien des petits dans le ventre. Et quand on a fait une échographie, comme on fait chez les humains, on les met dans des parcs en extérieur. D'abord dans des parcs collectifs. Et ensuite, peu de temps avant la mise bas, on les met dans des parcs individuels, avec des cabanes individuelles, où elles vont mettre bas et elles vont rester avec leurs petits pendant 6 à 8 semaines. Donc, c'est tous ces différents lieux qu'on fera visiter sur la ferme. Il faut compter à peu près 3/4 d'heure, 1 heure pour faire le tour du circuit sur la ferme.
Il faut compter aussi tous les moments de câlin. Alors, je ne sais pas si après, les vaches sont habituées, sont peut-être pas trop...
Alors, les vaches, c'est plus facile, mais on en a plus que quelques-unes dans les bâtiments à cette période-là, puisque voilà, dès qu'il fait beau au mois d'avril, on les sort, on les met à pâturer. Dès que l'herbe pousse, voilà.
Elle doit être contente de ressortir.
Voilà. Et nous aussi.
Tout le monde est content.
Ça change de travail par rapport à l'hiver où tout le monde est en bâtiment. Mais le principe d'une vache, c'est avant tout de pâturer. Dès qu'on peut, on les met au champ.
Et justement, vous avez des cultures et je crois de mélanges céréaliers.
Oui.
Alors, dans quel but vous faites?
Alors, on fait des mélanges céréaliers pour... pour assurer une bonne pousse, parce que en fait, les cultures, elles se complémentent. On fait donc, on met des céréales avec des protéagineux
Peut-être pour nos auditeurs, les protéagineux, c'est...
Ça va être des pois, ça va être des févroles qui vont apporter dans la culture. Elles vont prendre la... Elles vont restituer l'azote dans le sol et donc le blé va pouvoir se nourrir de l'azote.
Complémentaire aussi.
C'est complémentaire. Et puis, ça permet aussi d'être plus résilient face aux aléas du temps, puisque en fait, si à un moment, il y a une plante qui va avoir une maladie ou qui va plus souffrir soit trop d'eau, soit pas assez, l'autre ne va pas avoir les mêmes besoins en même temps. Et donc, ça permet une complémentarité. Mmh. On fait très peu de cultures uniques.
Et je crois aussi avoir vu que vous... c'était l'alimentation du coup, de vos animaux, toutes ces céréales
Alors, on essaye un maximum.
Oui.
voilà, alors on n'est pas totalement autosuffisant, donc on achète un petit peu de céréales à l'extérieur, donc en priorité à des collègues dans les environs. Et ensuite, quand on a besoin d'autres, on passe par des intermédiaires. Mais vraiment,
oui, l'idée,
quand on veut travailler sur l'autonomie, c'est au maximum de produire l'aliment dont les animaux ont besoin.
Donc, je crois que c'est une ferme familiale. Tu veux nous en parler
Oui, ben, en fait, c'est mon beau-père qui s'est installé au milieu au début des années 60. Ensuite, dans les années 90, j'ai un beau-frère qui s'est installé à côté de lui, qui a créé un élevage de porcs. Mon beau-père avait des vaches charolaises. Et ensuite, Nicolas, mon mari, s'est installé quand mon beau-père a pris sa retraite et il s'est associé avec son frère. Voilà. Et ils étaient en conventionnel et on a fait le choix de passer en bio en 2011, sachant qu'on était déjà dans des systèmes, les cochons étaient déjà sur paille et en extérieur, donc les changements ont pas... Il y a certains changements qu'on n'a pas eu à faire parce qu'on était déjà dans des démarches avec un élevage assez extensif, avec des pratiques compatibles avec la bio. Mmh.
Des bonnes pratiques déjà. Alors, ça fait du monde, non, dans la ferme, j'ai l'impression. Il y a combien de personnes qui y travaillent
Alors, au total, nous sommes 5 à travailler, 4 équivalents temps plein. C'est-à-dire qu'il y a François et Nicolas qui sont associés. On a un salarié en production sur l'élevage. Ma belle-sœur qui est sur la partie comptabilité, gestion et aussi elle me donne un coup de main sur la vente directe. Et moi, je suis sur la vente directe. Et donc, toutes les deux, on travaille à mi-temps sur la ferme.
Donc, on te verra, bien sûr, ce week-end.
Ah ben oui, on sera là, on présentera,
sera là.
On fera l'accueil, on expliquera des choses sur le site.
Justement, vous êtes passé au bio, alors il me semble que c'était il y a plus de 10 ans. Oui, il y a plus de 10 ans. Oui. Pourquoi être passé au bio et définitivement avoir choisi...
Alors, il y a plusieurs raisons qui se sont croisées. D'une part, un questionnement sur nos pratiques qui ne nous satisfaisaient pas totalement en utilisant des produits chimiques, des traitements, des engrais. Aussi un questionnement sociétal sur ce qu'on produisait, même si on n'avait pas l'impression de produire de la merde pour autant, mais quand même, ces produits de traitement nous gênaient un petit peu aux entournures. Mmh. Et puis, oui, un questionnement sociétal de nos voisins.
Une réflexion globale.
Et un questionnement sur l'impact de nos pratiques sur l'environnement, sur nos terres, sur l'eau, sur... Voilà. Et potentiellement aussi sur notre santé et sur la santé globale des humains. Et bien-être des animaux.
Et bien-être des animaux, tout est important, hein, le vôtre, les animaux.
Alors ce que je peux rajouter, c'est que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, parce que sur certaines pratiques, on n'avait pas grand-chose à changer. Pour d'autres, notamment les cultures, il fallait vraiment changer de pratique. Donc, on a pris le temps d'y réfléchir, d'aller voir des gens qui faisaient de la bio, de voir comment ils travaillaient, de voir quels équipements il fallait. Et en 18 mois, 2 ans, on a franchi le pas.
Ah oui, quand même.
Oui, on a pris le temps de se former, d'aller voir. Un gros changement sur la ferme, c'est qu'avant, on produisait des céréales que l'on vendait et l'on rachetait des aliments pour les porcs. Alors qu'en passant en bio, on a construit une fabrique d'aliments dans laquelle on stocke nos céréales et on les réutilise pour l'ensemble de nos animaux.
Et vous aviez des voisins, des fermes voisines qui étaient passées au bio, que vous avez pu interroger, ou vous étiez un peu les précurseurs sur, sur la zone ?
On avait des collègues, alors pas forcément tout en proximité, mais des collègues sur la région qui étaient passés en bio et qui s'en sortaient bien et qui étaient satisfaits. Et c'est aussi ça qui nous a permis d'avancer dans le projet et de franchir le pas.
Et qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Alors, j'ai les deux questions. Le plus difficile et qu'est-ce qui en ressort aujourd'hui qui vous fait dire que c'était une excellente idée ? Mais qu'est-ce qui a été, pour commencer, le plus difficile ?
Ce qui a été le plus compliqué, ce qui a fallu le plus de changements, c'est les pratiques de culture pour les céréales. C'est vraiment ça qui a été le plus impactant. On a racheté du matériel pour désherber mécaniquement, par exemple. Il y a 20 ans, moi, j'entendais Nicolas dire « Moi, je ne pourrais pas passer en bio parce que je ne sais pas faire. Ça me semble trop compliqué. » Et voilà, parce qu'il avait appris autre chose, il était dans un autre schéma. Et en fait, en y regardant de plus près, en voyant des gens faire, et puis aussi, de fil en aiguille, en réfléchissant un petit peu à ce qu'ils faisaient sans être en bio, ben, ils avaient déjà diminué les intrants, ils faisaient déjà des rotations de culture, comme ça se fait beaucoup en bio, mais déjà en conventionnel, ils en faisaient. Donc, au fur et à mesure qu'on essaie d'améliorer ces pratiques, de les rendre plus vertueuses, et ben, à un moment, la marche pour passer en bio, elle est moins grande, quoi.
Et donc, du coup, qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que c'était une excellente idée et quel est le constat et
Alors, c'est plus satisfaisant en termes de la manière dont on produit. Aussi, économiquement, on s'en sort mieux parce que c'est mieux valorisé, même s'il y a des hauts et des bas. Il y a eu un moment où il y a eu une baisse de consommation, de commercialisation, mais c'était aussi un des éléments déclencheurs que je n'ai pas dit tout à l'heure. C'est aussi gagner sa vie en faisant ce que l'on fait. Parce qu'il y a eu des périodes où en cochon, on était loin de gagner notre vie dessus. Donc à un moment, se poser la question, soit on change de système, soit on arrête la production. Voilà, et donc c'est un choix qu'on a fait il y a plus de 15 ans maintenant, et on ne regrette pas.
Et justement, pour vos clients, vos fidèles clients, vous avez pu poursuivre cette vente. Donc, ce système d'alimentation en circuit court, vous vendez donc à la ferme, mais pas que.
Non, pas que. Alors, on a une grande partie de notre production qui part en circuit long. On travaille avec souvent des coopératives pour commercialiser nos produits, mais il y en a une partie que l'on fait en vente directe. Et ça, c'est pareil, on a commencé il y a un peu plus de 15 ans. Et nous, on fonctionne en vendant de la viande en colis exclusivement, soit de vache, soit de porc. On a aussi un petit peu de conserve en bocaux et on travaille exclusivement sur commande. Je fais une vente de porc par mois et en vache, on fait à peu près tous les 2 mois.
Il faut s'y prendre à l'avance,
anticiper.
Il faut anticiper combien de temps globalement ?
3 semaines, 1 mois. Moi, je lance les offres 3 semaines, 1 mois avant la date. Enfin, 3 semaines, on va dire. Et il faut avoir commandé 12 jours avant la date de vente.
Tu veux nous lister un petit peu les produits transformés que tu proposes ou
Alors, en fait,
ton top 10
on a une formule assez, assez limitée. On fait des colis de viande. En porc, par exemple, ça va être en 5 ou 10 kilos. Et sur 10 kilos, on va avoir un rôti, une rouelle, plusieurs poches de côte, des escalopes, du sauté. Et ensuite, plusieurs kilos, soit en brut de la viande pour faire du pâté par soi-même, soit des saucisses et soit du pâté campagne prête à cuire, soit des ventrèches, soit de la viande hachée que l'on cuisine comme on veut. Ça, c'est le colis de base. Après, en dehors des colis, j'ai tout ce qui est abats. Donc, j'ai du foie, j'ai du cœur, j'ai des joues, j'ai des langues, Voilà, des pieds aussi, mais là, j'ai très peu de gens qui m'en demandent. J'ai des pieds de cochon, autant que vous en voulez.
Il y a encore des amateurs, non, je pense.
Mais pas beaucoup. J'en ai un petit peu, mais pas tant que ça.
Ça se mange moins.
Et ben, en vache, c'est un petit peu le même système. D'accord. On a un colis que j'appelle classique, avec rôti, différents types de steak, et ensuite du pot-au-feu et du bourguignon. Et dans mon colis grillade, je transforme le pot-au-feu bourguignon en saucisse merguez de bœuf et steak haché.
À l'approche de l'été,
ouais.
Pour les barbecues. Mmh. Bon, ben, c'est bien, ça nous a donné l'eau à la bouche. Comment une journée type, tiens, chez vous oui, hein, c'est une question difficile,
c'est assez variable,
mais globalement,
si ce n'est...
le matin...
Voilà, si ce n'est que le matin, on compte bien 2 heures, entre 2 et 3 heures pour soigner les animaux. D'une part, aux cochons, on va les alimenter, et les vaches aussi. Et quand elles sont au pré, du coup, on leur amène moins à manger, mais on fait le tour pour voir si tout va bien. Tous les 2-3 jours, on les change de parc pour qu'elles aient suffisamment d'herbe. Et puis, en plein été, on leur amène du foin quand il n'y a plus assez d'herbe. Ça, c'est pour le matin, ça, c'est le pansage des animaux, comme on dit. Ça prend 2 à 3 heures tous les matins. Et puis après, ben, ça varie selon s'il y a des travaux dans les champs à faire ou si on a les bâtiments à curer ou préparer les clôtures avant le printemps. C'est un temps important où on fait le tour des parcs, on refait des clôtures. Dans l'hiver, dans l'automne, on voit si on a des haies à broyer. On refait des aménagements. Les cabanes qu'on a dans les parcs des cochons, ben c'est nous qui les avons fait. Donc, de temps en temps, il faut en réparer quelques-unes. On retravaille sur l'entretien des bâtiments. Voilà, selon la saison, on intervient sur les cultures. Préparation du sol, les semis, le désherbage mécanique. Après, quand la période où on récolte, à différentes périodes selon les cultures.
On s'ennuie jamais.
Ah ben non, il y a toujours de quoi faire.
Il y a toujours de quoi faire. Vous arrivez justement à prendre un petit peu de vacances ou c'est compliqué ?
On en prend. Alors, on ne part pas 5 semaines chacun, mais on part 2 fois dans l'année. En hiver et en été. Oui. Puis on fait en sorte, enfin c'est un choix qu'on a fait à un moment, de ne pas se suréquiper, mais de faire le choix d'avoir un salarié pour aussi ne pas passer tout son temps
au travail.
Et puis ça fait partie aussi du... ça permet d'aller au CIVAM aussi, de faire des formations. Et ça fait partie aussi de l'équilibre et de la tenue dans la durée. D'avoir d'autres lieux que le travail.
Changer les idées, voilà, pas que le travail. Et justement, un petit mot, tiens, pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'aventure fermière, tu aurais un petit conseil à donner à un jeune qui hésite, qui pense ?
Pas hésiter à venir voir ce qui se passe sur les fermes, aller voir différents types d'agriculture. Il y a différents modèles et... c'est bien de s'inspirer d'aller voir différents univers. Et même pour ceux qui sont issus du monde agricole, ne pas forcément partir bille en tête comme ont fait les parents, mais prendre le temps d'aller travailler ailleurs pour découvrir d'autres systèmes, d'autres manières de faire. Et voilà, prendre le temps de découvrir et de travailler en tant que salarié, c'est bien aussi
pour
se faire un peu la main, voir différents types.
Eh bien justement, ça sera l'occasion pendant ce week-end de faire mon ferme, de prendre le temps et d'aller visiter ces fermes. On se fait une petite pause, on se retrouve dans quelques instants et je vous propose d'écouter tout de suite l'hymne de nos campagnes avec Trio.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mâles vont faire la part des choses.
Il est grand temps
de faire une pause et troquer cette vie morose
contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la
caviman, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout,
et
il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tout les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau
servira à la croissance de tes marmots. Servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Court-circuit, portrait des hommes et des femmes qui font la ruralité.
Ils sont le tissu économique et social de nos campagnes. Court-circuit sur REC 103.7.
Vous êtes toujours sur REC 103.7 avec Fabienne Duguay de l'Étang à l'appui. Avec cet épouvantail en mascotte de l'opération, un peu plus de 700 fermes ouvrent leurs portes au grand public le week-end prochain. Comment et depuis quand, Fabienne, êtes-vous arrivée dans ce dispositif de ferme en ferme ?
Alors, je pense que j'ai fait partie des premières fermes qui ont ouvert leurs portes avec les CIVAM il y a une dizaine d'années sur la Vienne. C'est un dispositif qui existe depuis 30 ans, qui a démarré dans le Gard et qui se fait dans 35 départements, je crois, là où il y a des groupes CIVAM qui se sont intéressés à ouvrir leurs portes. Et voilà, je crois que nous, on a commencé en 2018 sur la Vienne.
C'est une idée qui est venue naturellement. On est venu vous chercher ou c'est vous qui êtes...
Alors nous, on avait commencé à faire des portes ouvertes tout seul, simplement en invitant nos clients dans les premières années où on a commencé à faire de la vente directe, puisqu'en fait, quand on rencontre les gens lors des ventes, on parle un petit peu de la ferme, on n'a pas trop le temps d'y passer beaucoup de temps, mais du coup, on donne un rendez-vous pour venir visiter. Et puis, on a eu connaissance que dans le réseau CIVAM, dans lequel on était par ailleurs sur des groupes de travail d'amélioration des pratiques, on a proposé qu'ils puissent faire ces portes ouvertes en réseau, c'est-à-dire tous sur un même week-end et qui permet de passer de ferme en ferme, d'où le nom.
D'où le nom.
Voilà, l'idée c'est de pouvoir aller rencontrer des agriculteurs qui sont en réseau, en collectif, enfin dans des groupes où on réfléchit à nos pratiques et où on essaie de d'améliorer nos pratiques dans le sens de l'agriculture durable, qui est comme le développement durable, reposé sur trois piliers, des fermes viables économiquement, saines pour l'environnement et des fermes équitables socialement, avec un volet sur le travail, le bien-être au travail, sur la création d'emplois aussi en milieu rural, sur l'aspect environnemental, c'est améliorer nos pratiques pour être plus vertueux, tant sur les cultures que sur les élevages, et puis de pouvoir en vivre dignement.
Du coup, vous adhérez aussi à une charte de bonnes pratiques qui découle un petit peu de tout ça. Tu as des exemples peut-être concrets ?
Eh bien, alors c'est un petit peu ce que je viens de dire. Dans le réseau CIVAM, il y a plusieurs angles de réflexion. Il y a des groupes qui sont sur la diminution des produits phyto pour ceux qui ne sont pas en bio. Il y a sur comment on valorise les haies, comment on régénère, on travaille sur l'articulation culture dans les champs, et soit les haies, soit de l'agroforesterie. Nous, on ne fait pas d'agroforesterie, mais on a un gros linéaire de haies autour de nos champs et on trouve que c'est important à entretenir et à préserver pour améliorer nos pratiques de culture et aussi sur les prairies, d'avoir des zones d'ombre, avoir des zones, ça coupe le vent également. Voilà, sur les choses qu'on peut travailler. On travaille aussi beaucoup avec le CIVAM sur les circuits courts, améliorer nos pratiques dans ce cadre-là.
Et pour cette 33e édition, le thème de cette année, c'est l'alimentation au cœur des fermes. Alors j'imagine que pour vous, cela avait du sens de participer à l'opération cette année.
Ben oui, ça a toujours du sens, mais là particulièrement, dans la mesure où, comme la plupart des fermes, on produit avant tout nos productions, c'est pour l'alimentation humaine. Donc on a aussi un volet d'alimentation pour nos animaux. On disait tout à l'heure qu'on cultivait... On fait nos céréales pour nos animaux. On a une certaine gestion des prairies pour nourrir nos animaux. Et au final, on produit de la viande pour nourrir les hommes. Et on a à cœur que cette viande soit de bonne qualité. Et donc, tout notre travail d'éleveur, c'est au service de...
Engagé
pour avoir des bons produits au final, tout en respectant l'environnement, notre territoire.
Alors c'est vrai que produire et consommer localement, c'est d'actualité, c'est vraiment un enjeu pour vous.
Oui, tout à fait. Le fait de faire de la vente directe, il y avait aussi une volonté de relocaliser l'alimentation. Et de permettre à nos voisins d'abord, et puis à tous ceux qui sont intéressés sur le territoire de la Vienne, de pouvoir avoir de la viande produite localement, et en plus en bio.
Et en bio, et de qualité. Au vu de l'actualité, l'autonomie alimentaire, selon toi, c'est la dernière question, est-ce que selon toi, ça devrait être une préoccupation nationale ?
Ah ben, alors tout à fait, là, dans l'actualité, c'est criant. Enfin, ouais. Les problèmes de hausse du prix des engrais, nous, ça ne nous concerne pas. Et justement, dans les aides au monde agricole pour mieux faire face à la crise, nous, on aimerait qu'il y ait un peu plus de volonté, d'aide pour... changer les pratiques pour être moins dépendant des produits issus du pétrole. Alors on en utilise aussi beaucoup pour nos cultures, mais
oui, puis c'est le pétrole, c'est les importations imposées. Enfin voilà, il y a l'actualité est variée malheureusement, mais donc voilà cette préoccupation sur l'autonomie alimentaire.
Et plus on travaille en local, moins on est dépendant de tous ces éléments extérieurs et produits.
Bien, et eh bien je rappelle l'événement de Ferme en Ferme. Merci à toi Fabienne de ta venue. Donc
merci
cet événement, ce week-end, venez découvrir la ferme de l'étang située, donc c'est Le Pré Guillon.
Oui, Le Pré Guillon.
Guillon, voilà, à l'appui, au nord-est hein, de Chauvigny. Donc ils vous attendent nombreux ce samedi et dimanche. Et donc dimanche, je vous rappelle les horaires de 10h à midi et de 14h à 18h. Un grand merci à toi Fabienne.
Merci à vous.
Et moi, je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures.
Court-circuit, portrait des hommes et des femmes qui font la ruralité.
Ils sont le tissu économique et social de nos campagnes. Court-circuit. Sur ROC 103.7.